Phil PM. La voix est libre.
Je suis frustré, oui. Je trouve ça pas agréable. Mais je voulais parler à la population. Parce qu'en bout de piste, là, pas je suis dans la politique. J'ai pas besoin de ce job-là. Et moi, je voulais venir aider M. Legault. Si ma présence au Conseil des ministres est perçue comme étant négative ou est une embûche à ce que M. Legault accomplisse au Québec des prochains 4 ans ou 8 ans, je vais démissionner. C'est clair.
Voici Luc Lavoie.
Alors, c'était Pierre Fitzgibbon, le ministre de l'Économie de François Legault.
On vient de l'entendre. C'est un gars qui est blessé. C'est un gars qui est en train d'apprendre la dure réalité de la politique. Et c'est sur le fond, je pense, c'est un gars qui a raison. Qu'est-ce que tu veux? Je vais prendre quelqu'un dans le monde des affaires. Un gars qui a vécu une belle réussite dans le monde des affaires, Pierre Fitzgibbon, qui effectivement n'a pas besoin d'aller en politique pour vivre, ce gars-là. Et c'est un ami de François Legault. Et il décide de l'appuyer parce qu'il pense que son programme est valable. Puis il pense qu'il peut avoir quelque chose à apporter. Puis là, entre autres, il y a un réseau de contacts. Puis il dit, ben moi, Investissement Québec, je veux que ce soit plus actif que ça l'était avant. Je veux que ça se rapproche un peu plus de ce qu'a été le modèle de la SGF, un investisseur. Et puis j'ai un gars que je connais, c'est un de mes bons amis, il s'appelle Guy Leblanc, puis lui, il serait prêt à faire la job. Puis il nomme.
Oui. Au terme d'un processus dont il défend de l'intégrité.
Ouais, en plus.
Il y a eu un chasseur de tête, il a choisi deux candidatures qui ont été référées au Conseil d'administration d'Investissement Québec, qui avait constitué un comité. Le comité les a rencontrés les deux. Et finalement, le Conseil d'administration d'Investissement Québec a recommandé le chum à Fitzgibbon, qui était un des deux recommandés.
Puis là, ils se sont rendus compte que dans ses actifs, M. Fitzgibbon possédait, on ne sait même pas quelle valeur, d'une compagnie qui appartenait en majorité au fils de M. Leblanc. Alors là, tu te dis, hey, c'est écœurant, hein? Il rend des services au père de son partenaire d'affaires. Oups, il a juste ajouté une petite précision, M. Fitzgibbon, que je trouve qui est assez frappante. Il dit, d'abord, je l'aurais déjà vendu, cette participation-là, mais c'est un placement privé, tu ne vends pas ça sur la bourse, il faut que tu trouves un acheteur, puis il faut que ton partenaire soit d'accord.
Oui.
Puis il dit, deuxièmement, je ne sais pas c'est quoi là, le service que je rends parce que cette compagnie-là a fait 2000 piastres de revenus par mois. Ah!
2000 piastres de revenus par mois?
Oui, ce sont ses propres propos.
Move, ça, c'est la fameuse compagnie Move Protéines, protéines végétales.
Ouais, ouais.
2000 $ par mois de
revenus.
Ouais. Oh boy,
ouais, alors, tu sais, à un moment donné, M. Fitzgibbon, il trouve ça un peu tough parce que tu vas chercher quelqu'un du monde des affaires, puis tu le mets dans un portefeuille qui tourne effectivement autour du monde des affaires, et tu te dis, avec son expérience, avec son dynamisme, avec sa connaissance du milieu, il va aider à bien utiliser l'argent. Moi, je suis contre l'intervention gouvernementale la plupart du temps, mais puisqu'il y en a, aussi bien qu'on ait quelqu'un qui va le faire sur une base d'affaires. Et c'est ça que Fitzgibbon a comme mandat. Et puis
mais
moi,
il faut qu'il
apprenne
à prendre la chaleur, Luc.
Là, là-dessus, je suis d'accord avec toi.
Je veux dire, moi, là, Pierre Fitzgibbon, jusqu'à maintenant, là, je le trouve plutôt bon.
Moi aussi.
Hein, je le trouve plutôt bon. Mais là, M. Fitzgibbon...
Il faut qu'il apprenne que la vie politique, c'est pas une partie de plaisir.
Come on, là, vous saviez, j'imagine, vous saviez un petit peu dans quoi vous vous embarquez. Vous pensiez quoi, là, qu'il n'y aurait pas de journaliste qui allait écrire à un moment donné des papiers moins favorables?
Pense à Bill Morneau à Ottawa. Il y a à peu près un an, il était encore dans le trouble à cause, justement, de compagnies qu'il possédait.
Voilà.
Puis il y a eu une enquête du commissaire à l'éthique, puis il a été blanchi. Ce qui va arriver probablement à M. Fitzgibbon, mais je l'ai senti aujourd'hui.
Fragilisé.
Tu sais, quand extrêmement émotif, à quelque part entre la tristesse et la colère.
Oui.
Je pense qu'il était plutôt en colère que triste.
Oui.
Puis là-dessus, tu as complètement raison. Les gens d'affaires qui s'en vont en politique sont rarement des réussites. Il y a toutes sortes d'explications à ça. Tu sais, t'arrives du monde des affaires, t'es majoritaire dans une compagnie, c'est toi qui mène. C'est pas bien compliqué, là. T'as pas grand monde à qui tu dois expliquer ça. Au pire, faut que t'expliques à ton conseil d'administration, mais quand t'es majoritaire dans une compagnie, même une compagnie qui est cotée en bourse...
T'es habitué de bosser.
Ben oui, puis je veux dire, si le conseil te va pas de ton bord, tu vas changer le conseil, ben c'est toi qui détiens le vote. C'est pas bien compliqué, tout ça. Alors, un homme d'affaires, une femme d'affaires qui arrive en politique... C'est rare que ça marche. On va le voir, là, François Legault, et il vient du monde des affaires.
Mais lui, il a l'expérience politique.
Il a quand même eu 10, 15 ans d'expérience politique. Ouais, bon, d'accord. Donc, il a appris la politique.
Exact.
Et la politique, c'est une chose que les gens oublient, là, mais c'est un métier en soi. Tellement. Et ça s'apprend, ce métier-là.
Il y a des règles.
Il y a des règles, puis il y a des choses qui font que tu peux ou tu ne peux pas survivre à certains types d'affaires. C'est pas juste les lois, là, c'est toute une dynamique, la politique. Oui. Les électeurs.
C'est comme une culture. Qui... Hein, c'est comme une culture, Luc.
Ben, c'est les gens qui ont voté pour toi, ils ont l'impression que ils ont le droit de te parler puis de demander quelque chose.
Oui.
Puis les fonctionnaires, eux autres, là, ils ont un mandat à remplir.
Puis les journalistes, puis, eux autres.
Les journalistes
ils...
aussi.
Ils ont un mandat
puis
aussi.
Puis la haute fonction publique, puis le caucus du parti,
ben oui.
Puis l'Assemblée générale du parti. C'est ça, la politique. C'est tu prends tout ça ensemble.
Ça fait pas mal de reddition de comptes, hein? T'as pas juste une Assemblée des actionnaires, t'en as 10.
Et moi, j'ai souvent dit à des politiciens, quand je travaillais avec eux, qui se fâchaient parce que les journalistes ci, puis les journalistes ça, je disais, écoutez bien, là, si vous faisiez pas autant d'efforts pour cacher les faits aux journalistes, vous auriez moins de surprises, peut-être. Tu comprends? Tout ce qu'on fait au gouvernement pour qu'une affaire ne soit pas connue, ça fait partie de la culture, ça aussi. Alors que, si tu veux, tu peux pas te plaindre des journalistes d'un côté, puis de l'autre côté, essayer de cacher les faits. Et je dis pas que M. Fitzgibbon a caché les faits, ce n'est pas le cas du tout. Mais je veux dire, les journalistes font ce qu'ils ont à faire, puis ils font partie d'un certain équilibre. Puis des journalistes, il y en a des bons puis des moins bons. Puis il y a des erreurs déontologiques qui se produisent aussi. Puis il y a des correctifs qui sont amenés, puis c'est jamais parfait. Puis on aime le style ou on n'aime pas le style. Mais la liberté d'expression, c'est ça. Puis M. Fitzgibbon, il va falloir qu'il apprenne que, tu sais, comme on dit en anglais... Hein, get out of the kitchen, si tu trouves ça trop chaud.
If you can't stand the heat, get out of the kitchen. C'est Truman, je pense qu'il avait dit ça.
Oui, effectivement.
Dans le papier de Patrick Bellerose, là, Fitzgibbon dit « Les reportages à mon sujet doivent cesser, entre guillemets. À un certain moment, j'ai autre chose à faire que ça. » Moi, j'ai le goût d'y dire, M. Fitzgibbon...
Vous n'êtes pas dans le bon business.
C'est pas vous qui allez décider, d'abord, si les reportages cessent ou s'ils ne cessent pas. Puis deuxièmement, si vous voulez qu'ils cessent, là, d'abord, répondez aux questions. Et deuxièmement, arrêtez de vous en occuper. Parce que s'il y a une affaire que j'ai appris en politique, Luc, là...
Faut pas que tu te laisses mener par ça.
À un moment donné, les journalistes vont passer à autre chose parce que l'actualité va t'amener ailleurs. Fait que... Dur, bonhomme.
Oui, parce
t'sais,
que...
dur de bonhomme.
Puis en plus, avec la nature moderne des médias, c'est-à-dire le côté...
Instantané.
L'instantanéité qui vient par l'Internet, puis par des stations de radio, puis par des canaux de nouvelles en continu et tout le reste, ça fait que les crises montent 5-6 fois plus vite qu'autrefois.
Et c'est foire aussi vite.
Et c'est foire aussi vite parce qu'il y a comme... On atteint un trop-plein à un moment donné, puis la crise casse.
Toi, t'as connu le temps où il y avait un cycle de nouvelles.
Oui.
Un bulletin en début de soirée ou même en fin de soirée.
Oui, puis le lendemain matin, les journaux.
Et aujourd'hui, on est rendu à 3 cycles, c'est-à-dire la nouvelle du matin n'est plus celle de la fin de l'après-midi, puis celle de la fin de l'après-midi n'est plus celle de la fin de la journée.
Absolument. Puis le lendemain matin, quand tu prends ton journal, ça ne te fait plus un reportage sur la conférence de presse de la 2h la veille, parce que c'est brûlé déjà.
Exact, c'est brûlé déjà depuis un bout. Alors Fitzgibbon, ce qu'il doit apprendre, c'est il doit apprendre à comprendre que ça va finir par passer.
Oui.
Mais
mets-toi pas à Bill Morneau, tu te souviens le mauvais quart d'heure qui a passé.
Mets-toi pas à brailler parce que les journalistes t'asticotent un peu. Tiens-toi debout, prends les coups. C'est ça que ça veut dire, faire de la politique.
Puis quand il était venu en entrevue à ton émission la semaine dernière, je l'avais trouvé très bon parce qu'il était calme, puis il avait expliqué les faits pour ce qu'ils étaient, puis je mettais en doute absolument rien de ce qu'il disait. Il jouait pas à la cassette, puis au fin finot, pas à la langue de bois. Mais alors, il faut, comme tu dis, qu'ils apprennent à prendre la chaleur, puis il faut qu'ils apprennent que c'est ça la vie politique. C'est un sport extrême, la politique.
Absolument. Et un de ceux qui a connu ça, la politique, comme sport extrême, c'est Jimmy Carter, l'ancien président américain, qui a reçu un appel du président Trump, il y a quelques jours de ça, et ça concerne la Chine, et tu veux nous en parler?
J'ai trouvé ça très bon en passant.
Après la pause.
Drainville PM. La voix est libre.
OK, on fait un petit peu d'actualité internationale, parce que moi, je pense, Luc, là, et tu es comme moi là-dessus, on suit beaucoup la géopolitique.
Oui. Qui est en train d'être bouleversé.
Et on observe, évidemment, depuis un certain temps, l'émergence de la Chine. Et toi et moi, je pense qu'on est convaincus que la Chine va devenir, probablement de notre vivant, la première superpuissance mondiale. Certains diront qu'elle l'est déjà. Moi, je ne pense pas qu'elle l'est encore,
mais je pense que les experts s'entendent sur 5 ans, dans 5 ans.
Et là, ce qui est très intéressant, c'est que Donald Trump, visiblement, il n'est pas fou à temps plein. Il regarde ce qui se passe avec la Chine. D'ailleurs, il essaie d'obtenir un nouveau deal commercial avec la Chine pour, d'une certaine façon...
contrebalancer. Il y avait un déficit commercial tellement énorme que là-dessus, c'est dur de le blâmer. Il fallait qu'il fasse quelque chose. Il n'était pas obligé d'agir en cassant toute la vaisselle.
Mais ça, bon, il négocie toujours un nouveau deal. Oui. Et il essaie donc de rééquilibrer un peu les rapports économiques entre lui et les Chinois. Maintenant, il appelle Jimmy Carter, l'ancien président américain de 76 à 80, et là, il lui dit quoi?
Ben, c'est-à-dire, pourquoi il appelle Jimmy Carter? Parce que Jimmy Carter, c'est celui qui a rétabli les relations diplomatiques entre Washington et Pékin en 1979.
Même si Nixon avait ouvert le chemin.
Il avait ouvert le chemin, mais les relations diplomatiques formelles et normalisées, c'est Jimmy Carter.
Bon.
Alors, il l'appelle, puis il lui dit, on est en train de se faire dépasser par la Chine.
Oui.
Et là, Carter parlait, parce qu'il fait encore des prêches à son église locale où il habite.
Il a quel âge? 93?
93 ans.
Écoute, il est fort.
Il est encore en bonne santé. Et je veux mentionner que ce n'est pas un des présidents qui m'a le plus impressionné dans ma vie.
Ça n'a
pas été une présidence très réussie. Non. Mais quoi qu'il en soit, je trouve très, très intéressant ce qu'il dit aux gens à l'église, parce qu'il leur raconte cet appel du président Trump qui lui a semblé très, très inquiet. Et voici ce qu'il lui dit. Je le traduis. « Depuis 1979, savez-vous combien de fois la Chine a été en guerre avec quiconque? »
Là, c'est Carter qui parle.
Oui, puis il répond lui-même. « Aucune. Il n'y a jamais eu de guerre. La Chine ne s'est impliquée dans aucune guerre. Et nous avons été en guerre pendant tout ce temps-là. Les États-Unis, qui dit, ajoute-t-il, ont été en paix pendant 16 ans. » dans 242 ans d'histoire, ce qui, selon lui, fait de ce pays une des nations les plus guerrières de tous les temps. Alors, il dit, et ça c'est beaucoup attribuable au fait que les États-Unis ont tendance à vouloir imposer leurs principes et leurs valeurs sur d'autres pays. Et il dit, regardez une autre chose, regardez ce que ça a donné de ne pas aller en guerre pour la Chine. Savez-vous combien, dit-il, il y a de 1000 de chemins de fer à très haute vitesse, les équivalents des TGV. En Chine, il y en a 18 000 milles. Aux États-Unis, rien du tout. Aux États-Unis, on a dépensé 3 000 milliards de dollars depuis 1979 à faire des guerres. Pendant ce temps-là, la Chine construisait des infrastructures comme personne n'en avait. Puis il dit, si on avait pris les 3 millions puis qu'on les avait mis dans les infrastructures aux États-Unis...
On aurait des trains
à grande vitesse, puis on aurait des excellents ponts, puis on aurait des aéroports fantastiques. Et là, il va plus loin, puis il dit, notre système d'éducation serait aussi bon que celui de la Corée du Sud, qui est considéré comme un des meilleurs, ou Hong Kong. Alors moi, je trouve une leçon dans
T'es-tu
ça
d'accord?
de choc.
T'es d'accord avec ce que Carter dit, oui?
Complètement d'accord. Les États-Unis peuvent pas s'empêcher d'aller faire des aventures guerrières un peu partout. Ils apprennent pas. La guerre en Irak était une catastrophe. Ouais. La guerre en Afghanistan, où on a laissé près de 200 vies canadiennes et combien de milliers dans le monde entier.
Mais si on n'avait pas le choix, là. Après l'attaque du 11 septembre,
oui,
on n'avait pas le choix. Là.
On n'avait pas le choix. Mais on était-tu obligé de rester là 15 ans de temps? C'était-tu ça, l'affaire?
Mais c'est parce que l'idée, c'était de sortir les talibans.
Oui, mais ils ont sorti à peu près en 3 mois. À un moment donné, le reste, là, c'est comme... Tu penses quoi, là, que tu penses
mais
que les Afghans...
Il fallait installer la démocratie, tu te rappelles?
Mais c'est pas, oui, mais c'est pas faisable. C'est ça qui est le côté naïf des Américains. T'as un pays, l'Afghanistan, qui est un très vieux pays...
Qui est un pays tribal.
Qui est un pays tribal, avec plusieurs ethnies.
Ben oui.
Alors, il arrive des Américains, les Russes l'ont essayé avant eux, ils sont sortis, comme on dit...
La queue entre les deux, genre.
Ouais, c'est ça, là. Ben alors, tu te réessayes une autre fois. Bon, on va y aller, mon monnaie à claque, là, tu sais. Allons-y. Tiens, ça donne quoi? Puis après ça,
puis là, on est
un
bien,
peu il... monté par la France puis l'Angleterre, puis tu finis par y participer. On fait sauter Kadhafi en Libye. Pour aboutir à quoi? La Libye est devenue une base d'Al-Qaïda maintenant.
Et le régime
désordre,
est menacé.
Le chaos, le régime est divisé en deux. C'est la guerre civile constamment. C'est quoi la réalité de l'Irak? Une complète catastrophe, puis 60% du pays est maintenant emmené par les ayatollahs de Téhéran, parce que le 60% du pays, c'était la partie qui était chiite et qui était contiguë à l'Irak. Maintenant, ils obéissent plus du tout au gouvernement sunnite qui est en place. Alors, c'est ça que ça a donné. Des milliers de milliards de dollars en aventures guerrières qui, si elles avaient été investies dans ce qui fait d'un pays un pays plus concurrentiel que les autres, plus avancé et tout ça, si c'est ça qu'ils avaient fait, ils seraient encore et de loin une très grande puissance.
Mais Luc, c'est l'histoire qui se répète.
Ben oui,
avant, les Américains, c'était les Britanniques, oui. Les Français. Tu peux pas empêcher
mais même les Romains. Mais pourquoi ils se sont effondrés? Parce qu'ils ont été trop loin, ils se sont étirés trop loin, puis ils ont mené la guerre partout. Ils étaient plus capables.
Oui, puis si tu regardes la position des Américains, ils ont des bases militaires partout dans le monde.
Partout dans le monde.
Et avec le recul, dans 100, 200, on ne sera plus là, toi non plus.
880 milliards, le budget de la défense cette année. 880 milliards de dollars. As-tu pensé à ça? Nous autres, au Canada, on a 60 avions de combat. Aux États-Unis, ils en ont 6500. Au Canada, on n'a pas de porte-avions. Aux États-Unis, ils en ont 15. Puis un porte-avions, c'est accompagné par 25 navires qui sont des sous-marins nucléaires.
Oui, mais regarde les Chinois ce qu'ils sont en train de faire.
Ben, ils sont en train de prendre militairement le contrôle de leurs zones.
J'allais dire, ils sont en train... Si l'erreur de la superpuissance américaine, c'est d'avoir trop investi dans le militaire, je t'annonce que les Chinois sont en train de faire la même chose à une échelle plus régional pour le moment.
On verra.
Mais ils investissent, actuellement, ils investissent massivement dans des porte-avions,
dans des avions de combat,
ils construisent des îles artificielles qui deviennent des bases aériennes dans le Pacifique.
Puis ils sont rendus dans l'espace, puis de l'espace, ils sont en train d'installer des satellites espions et tout ce que tu veux. Ils ont le comportement d'une superpuissance.
Ils ont une volonté hégémonique.
Ils ont une volonté, enfin, sur leur région du monde, certainement hégémonique.
Est-ce que ça va s'arrêter à leur région du monde? Il n'y a aucune...
On verra.
Moi, je ne suis pas sûr de ça.
Moi, je ne suis pas sûr
de ça. Parce qu'il y a comme une espèce de logique intrinsèque. Quand tu veux dominer, tu commences par ta région, puis éventuellement, tu veux étendre ton influence.
Tu sais, il n'y a pas si longtemps, là, Bernard, il y a 12-13 ans, là, il y avait quelque chose comme 180 000 soldats américains en Irak. Puis il y en avait 90 000 en Afghanistan. Te rends-tu compte la logistique que ça... Les coûts d'opération de cette affaire-là...
C'est quoi, c'est des dizaines de milliards que ça a coûté? Irak et Afghanistan ensemble,
je pense que
c'est
ça a coûté à peu près 1 500 milliards, oui. C'est quand même incroyable, hein? C'est quand même incroyable. Écoute, tu ne déplaces pas... Quand tu dis 170 000, 180 000 troupes, là, ça, c'est des soldats, là. Ça, c'est
la base logistique, bien sûr.
Écoute, c'est énorme. Et les Américains, bien là-dessus, Jimmy Carter, je dis, écoute, il a donné la bonne réponse à Trump. Qu'est-ce que tu veux? Nous autres, on a dépensé 3 000 milliards à la guerre, puis eux autres, ils n'étaient pas en guerre. Oui, ils construisent des porte-avions, mais ça coûte moins cher d'avoir des porte-avions en temps de paix que des mettre à la guerre. Te rends-tu compte ce que ça coûte, les fameux obus puis les missiles lancés? Ces missiles-là coûtent 10 millions de pièces, puis ils envoient ça tchoum, 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 comme si de rien n'était. Alors, ils sont en train d'arriver au bout de leur capacité économique de tenir ce rythme-là. Dans ce sens-là, moi, j'étais pas et je demeure toujours pas opposé à Trump quand il dit qu'il faut arrêter d'être partout sur la planète Terre avec notre armée.
J'allais dire, Carter donne raison à Trump quand il tient ce discours-là.
Absolument. Sauf qu'on verra. Quand Trump va vouloir se créer une petite guerre, il fera bien.
Oui, et je continue de
dire... Mais alors, pour une fois, je voulais rendre hommage à Carter. C'est une belle façon de dire les choses. Quand tu es toujours en guerre, tu ne peux plus continuer éternellement.
C'est d'argent que tu ne mets pas ailleurs. Voilà. Merci, mon cher Luc.
Salut.
Après la pause, une belle histoire. Samuel, tétraplégique, ne s'est pas laissé abattre par la vie. Vous allez écouter ça, vous allez voir, c'est inspirant.